Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Eddie Claude Ninina Hasgwe.
Nous sommes lundi 8 janvier 2024. Vous suivez la radio Nzambaga Terekawe. Merci pour votre fidélité sur l'heure du journal en français. Donc voici d'abord les principaux titres. Plus de 3500 élèves ont abandonné l'école au cours du premier trimestre de l'année scolaire en cours dans la province de Kayanza. La pauvreté dans les ménages en est la principale cause. Et puis le président de la République, Evariste Ndayishimiye, devrait se concentrer sur les défis auxquels fait face le Burundi au lieu d'accuser les pays voisins de ceci ou de cela. C'est l'une des recommandations des journalistes qui ont participé à une émission du Club de la Presse organisée le week-end dernier. On en parlait dans ce journal. Enfin, dans la dernière émission publique, le président Ndayishimiye a promis de donner des tôles de maison pour les déplacés qui veulent regagner leur colline d'origine. L'association ACG aussi de Chilimoso, section Canada, dit plutôt qu'il faut d'abord que ces déplacés soient rassurés pour leur sécurité une fois rentrés sur leur colline. Voilà pour le sommaire de ce journal. Soyez tous les bienvenus.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Pour commencer ce journal, la journaliste Floriane Yangabillé vient d'obtenir un rendez-vous devant la Cour de cassation. Elle sera entendue en audience publique ce jeudi 11 janvier 2024. La journaliste avait fait appel après sa condamnation à 10 ans de prison de paiement d'une amende d'un million de francs burundais. Elle est accusée d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Depuis son arrestation en août 2021, les organisations de défense des droits humains, tant nationales qu'internationales, réclament sa libération immédiate et sans condition, estimant que les victimes de sa profession de journaliste, Floriane Ilangabillé, est incarcérée à la prison centrale de Mubanza, où elle a été transférée de Muyinga en novembre 2022. Et dans le domaine de l'éducation, au cours du premier trimestre, je vous le disais dans les titres, l'année scolaire 2023-2024 a été marquée par plus de 3500 élèves qui ont abandonné l'école dans la province de Kayanza. Les responsables de ce secteur dans la région attribuent principalement ces abandons à la pauvreté dans les ménages et à certains parents qui ne voient pas l'importance de la scolarisation. Désiré Atongimana, directeur de la province scolaire de Kayanza, appelle tous les acteurs de l'éducation à intensifier leurs efforts de sensibilisation pour l'importance de l'instruction dans les écoles. On fait le point avec mon fils Nyongere.
D'après les informations fournies par les responsables du secteur de l'éducation de la province de Kayanza, plus de 3500 cas ont été recensés à la fin du premier trimestre de l'année scolaire en cours dans toute la province. Parmi ces cas, 6 sont originaires de la commune Kayanza, plaçant ainsi cette commune en première position parmi les 9 qui comptent la province. De plus, cette commune enregistre le plus grand nombre d'élèves inscrits. Désiré Atongimana, directeur de la province scolaire de Kayanza, souligne que cet effectif élevé dans la commune de Kayanza peut parfois influencer le rendement et le classement de la province en fonction des taux de réussite aux examens et tests nationaux. Les responsables du secteur de l'éducation de la province expliquent que les principales causes de ces abandons incluent la pauvreté dans les ménages, poussant certains élèves à quitter l'école pour s'engager dans de petites activités comme le commerce afin de soutenir leurs parents dans certains besoins. Une autre cause évoquée par ces sources est le relâchement des parents en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Face à ces défis, Désiré Atongimana appelle tous les acteurs du secteur à intensifier les séances de sensibilisation à la fois pour les parents et les enfants sur l'importance cruciale de l'enseignement et de l'éducation, considérée comme la principale source du savoir pour la planification de leur avenir. Il est à noter que la province de Kayanza enregistre depuis quelques années des cas d'abandon variant entre 16 000 et 19 000.
Merci à toi, bon fils Nyongere. La crise qui traverse le Burundi prend de plus en plus une dimension régionale. C'est le constat fait par le journaliste Bob Lugulika qui estime que le Burundi fait tellement face à de nombreux défis auxquels le président Ndayishimiye, n'ayant pas de solution, a décidé de les exporter dans la sous-région. Cela se justifie par l'envoi des troupes burundaises en RDC pour aller combattre le mouvement M23 du côté des forces loyalistes, sans oublier l'accusation du Rwanda, comme quoi il soutient le mouvement Red Tabara. Suivez le journaliste Bob Lugurika. Il s'exprimait samedi dernier dans une émission du Club de la Presse et de la Synergie des Médias.
Le discours du président burundais qui semble reprendre en fait le discours congolais sur le Rwanda. Parce que bon, si ce qu'il dit effectivement, a dit qu'à un certain moment, une balle qui va siffler à l'est de la RDC, il va demander l'autorisation à son parlement d'attaquer le Rwanda. Et il y a quelques années, et je pense que ce que Félix Tshisekedi a déclaré, qu'il voudrait faire la guerre au Rwanda, et ce que le président Evariste Ndayishimiye au Burundi vient aussi de dire, d'impliquer le Rwanda dans la crise interne au Burundi, je pense que les deux présidents sont en quelque sorte en train de dévoiler un plan vieux de plusieurs années. Savoir quand, comment est-ce qu'ils vont exécuter ce plan, savoir quand et comment, et surtout les chances de réussite de ce plan, ça je ne saurais pas me prononcer pour le moment. Mais moi je suis très inquiet parce que je trouve qu'il y a quelques pas en plan que je pourrais même qualifier d'anti-rwandais. Rappelez-vous quand on a parlé des entraînements paramilitaires à Kiribati-Ondes, les années 2010, 11, 12, c'était des miliciens burundais formés par des instructeurs rwandais, probablement issus des FDRR et des Congolais. Donc il faut vraiment comprendre qu'il existe une certaine alliance burundo-congolaise avec différentes milices qui sont vraiment engagées dans un plan. Dans un plan, on ne saura pas aujourd'hui dire pour quelle issue, mais on le voit. Alors, tout récemment, effectivement, le président burundais a souvent nié, même l'armée burundaise, dans des communiqués que vous pouvez voir, ils ont toujours nié la présence des militaires burundais dans les rangs des FARDC qui sont en train de combattre contre le mouvement M23, un mouvement congolais qui milite et qui se bat pour les droits des citoyens congolais. Le président Ndayishimiye a toujours nié la présence, le gouvernement burundais a toujours nié la présence, l'armée burundaise a sorti souvent des communiqués qui nient la présence. Mais regarde ce qui vient de se passer récemment. Après le discours incendiaire de Tshisekedi contre le Rwanda, le président Evariste Ndayishimiye vient de l'emboîter le pas et surtout vient finalement de reconnaître la présence des troupes burundaises aux côtés des FARDC pour combattre le M23. Vous comprenez que cette fois-ci, il dévoile finalement un plan qui était resté jusque-là caché.
En accusant le Rwanda, le président Ndayishimiye a voulu chercher un bouc émissaire au lieu de se concentrer sur la résolution des problèmes auxquels fait face son pays. C'est l'analyse du journaliste spécialiste de la sous-région, Albert Latimbougwa, qui était invité également à ce club de la presse et de la synergie des médias.
C'est vraiment faire beaucoup de bruit, beaucoup de je dirais pour leur propre opinion nationale, hein. Que ce soit au Burundi ou au Congo, les choses ne vont pas. N'oublions pas que quand même jusqu'aujourd'hui, toute cette coalition de Burundais et des FARDC n'ont toujours pas réussi même à prendre un centimètre carré de territoire qu'en attendant les M23 occupent. Donc je dis, il y a déjà encore le M23 comme il y a eu dans le passé le CNDD, FDD, tout ça. Ça fait partie des choses qui existent. Le Burundi est tellement dans ses propres problèmes d'être pratiquement un peu au banc de la communauté internationale, avec très peu de bailleurs qui veulent renouveler tant que certaines questions ne sont pas résolues, ne sont pas posées, répondues. Donc je veux dire, c'est vraiment beaucoup plus d'agitation qui se font et au Burundi, au Congo. Je comprends que ça peut exister, tout ça. Je veux dire, il y a une responsabilité quand même interne qui, le Burundi, je dirais que ce qu'on essaie d'éviter, c'est d'être entraîné dans des histoires à eux, mais ça ne se passerait jamais sur le sol rwandais.
Inzamba. Dans la suite de ce journal, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a déclaré avoir lancé la campagne d'octroi des tôles pour les déplacés internes souhaitant retourner sur leurs collines d'origine, car les terrains qu'ils occupent actuellement ne leur appartiennent pas. Cette annonce a été faite lors d'une conférence publique à la fin de l'année 2023 pour ceux qui hésitent à retourner sur leur terre d'origine. Evariste Ndayishimiye a précisé qu'ils seront installés dans des villages aux côtés d'autres catégories de personnes démunies. Suivez Evariste Ndayishimiye.
Récemment, j'ai été informé de la situation des déplacés qui ont construit des maisons mais qui manquent de tôles. En réponse, j'ai immédiatement donné l'ordre d'acheter 20 000 tôles. Les déplacés internes m'ont posé des questions exprimant des préoccupations quant à quitter leur maison en tôle pour retourner vivre dans des huttes. Ils ont partagé des inquiétudes sur le fait que là où ils sont actuellement ne peut être considéré comme chez eux. Pour répondre à ces préoccupations, j'ai décidé d'accorder des tôles à chaque déplacé qui choisit de retourner dans sa colline natale. Heureusement, aujourd'hui, la question de la sécurité n'est plus une préoccupation majeure et ils ne l'ont même pas évoquée. Nous avons déjà mis en œuvre une initiative similaire pour d'autres déplacés dans les provinces d'Okayanza. Nous avons également pris en compte le cas de déplacés qui ne souhaitaient pas retourner dans des endroits éloignés comme des vallées, car ils se sont habitués à vivre en ville. Nous avons reçu leur doléance car la gestion de la question des déplacés est orientée vers la réconciliation. Et en tant qu'État, il est de notre responsabilité de prendre en charge cette question. Nous envisageons de mettre à la disposition des terres de l'État pour construire des villages destinés à se déplacer, ainsi qu'aux minorités de l'ethnie Batwa qui ont des appréhensions quant au retour dans les vallées. Nous prévoyons de céder des terrains pouvant accueillir jusqu'à 1000 personnes pour abriter ces communautés.
La politique de réinstallation des rescapés internes sur les collines d'origine n'inspire pas confiance selon Emmanuel Nkurunziza. Il est secrétaire de l'association à ces génocides et Chirimoso Section Canada. Emmanuel Nkurunziza estime que le chef de l'État devrait d'abord garantir la sécurité de ses déplacés. Il explique qu'ils sont toujours intimidés par le jeune Imbonerakure Lakoulé qui bénéficie de la protection et de la complicité des autorités du pays. Suivez Emmanuel Nkurunziza.
Il est impérieux de souligner qu'avant le début de ce génocide d'octobre 1993, la population batoua avait un mode de vie peu enviable des suites d'une mauvaise politique pas inclusive. Le fait que ces rescapés tutsis qui avaient leur propriété, eh bien, se sont vus réduits au même état que cette population batoua est déjà significatif en soi. Donc, c'est des suites d'un acte délibéré, c'est-à-dire du génocide qu'ils ont subi. Et c'est pour cela qu'en deuxième lieu, nous devons souligner que même si le chef de l'État en place fait mine de traiter la question de leur logement, de leur retour sur le terroir, eh bien, c'est beaucoup plus par besoin de cacher cette preuve irréfutable du génocide que le CNDD-FDD et le FODEBO ont perpétré à l'encontre de la population tutsi. Nous devons souligner que la plupart d'entre eux ont obtenu ces terrains près des routes macadamisées et autres après échange de terrains beaucoup plus grands qui se trouvaient sur les terroirs. En exemple, ce sont des gens qui nous ont déclaré avoir cédé parfois 100 mètres ou 200 sur 300 mètres afin d'avoir ne serait-ce que 50 sur 60 mètres ou bâtir une maison parce que c'était juste sur la route. Alors, cela se passe, disons, en 1993-14. Il y en a d'autres qui n'ont pas cédé leur terrain mais qui ont payé de l'argent comptant. Eh bien, cet État qui fait mine de leur préparer un avenir meilleur, est-ce qu'il tient compte de la dévaluation et de cet investissement qu'ils ont été forcés à opérer, je peux ainsi dire. Même si le chef d'État dit que maintenant la sécurité n'est plus une question de l'heure, eh bien parler sécurité pour en rescaper du génocide, eh bien cela veut dire qu'il y a eu répression de l'auteur de ce crime. Hélas, aujourd'hui, le gouvernement lui-même est aux mains de ces mêmes présumés génocidaires. Et même après ces enquêtes, après l'arrivée indue au pouvoir du CNDD-FDD, on a enregistré des destructions méchantes des propriétés de ces rescapés, notamment leurs récoltes, et sans parler des exactions et des intimidations, des attaques incessantes de la part des miliciens Imbonerakure. Nous aimerions, par exemple, avoir un nombre bien précis de ces miliciens qui ont été poursuivis pour avoir intimidé les rescapés, ou bien un nombre bien précis de procès qui ont été clôturés et exécutés.
Page sportive pour clore ce journal. Le Bujumbura abrite depuis samedi jusqu'au 14 janvier une compétition régionale de tennis. Au football, l'équipe nationale est en déplacement au Togo où elle va croiser le fer demain avec l'équipe algérienne. Au volleyball, le week-end a été marqué par le début de la phase retour à l'association de Bujumbura. Alexandre Nyungeko nous en dit plus.
Organisée par la Fédération burundaise de tennis en collaboration avec la Fédération internationale et la Confédération africaine de tennis, Cette compétition a vu la participation de 10 pays de l'Afrique de l'Est, à savoir le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Djibouti, les îles Comores, l'Éthiopie, Seychelles et le Soudan. Seule la Somalie et l'Érythrée n'ont pas répondu au rendez-vous de Bujumbura. Cette compétition est qualificative pour les championnats africains de cette année pour les jeunes de 16 ans et donne des points classement mondial individuel junior pour les 14 ans et moins. Au football, le championnat national féminin était ce week-end à sa 4e journée. Dimanche, large victoire de Arena Star face au Lyon, score fleuve de 8-0, même score de 8-0 de PVP qui a largement dominé Bonavenir. Enfin, Bouja Queen s'est imposé sur Étoile du Matin par 6-0. Et ce samedi, Fofila a battu Inwari Kazi par 2-1, succès de Maïka face à la Colombe de 4-0. Toujours au football, sachez que l'équipe nationale des Hirondelles du Burundi joue demain au Togo en match amical contre les Fennec d'Algérie qui se prépare pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Cette saga de football africain démarre ce samedi 13 janvier en Côte d'Ivoire pour se clôturer au 11 février de cette année. Au volleyball, première et deuxième journée de la phase retour du championnat de volleyball à l'association de Bujumbura, le Cosmos a battu Rukinzo par 3-7-2. Bissoro a nettement dominé Amical par 3-7-1, et tandis que Boone est venu à bout de Muzinga par 3-7-0. Et côté féminin, les As ont battu Ejia par 3-7-0. Muzinga s'est imposé sur PTT par 3-7-1 et JLC a battu Estetica par 3-7-1.
Merci Alexandre Nyungeko pour tous ces détails et c'est par là que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.